RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket d'RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Voici la Dream Team post All-Star Game. On en a perdu en route. Il reste donc Stephen.
Oui, bonjour Pierre.
Kylian Vérov et Arnaud Baladon.
Salut à tous.
C'est peut-être que Fred s'est mis une grosse mine après ce fantastique All-Star Game, je sais pas. Hein.
Oui, sans doute.
Peut-être pour, plutôt pour l'oublier.
Ou la Leaders Cup,
hein, ou la Leaders Cup peut-être, avec le premier titre de Paris. Bravo, beau projet.
Bravo,
belle salle, quelle salle quand même. Non ?
T'as été ?
Je suis passé devant hier, figure-toi, j'ai trouvé ça magnifique.
Du périph ?
Ouais. Mais là, y a des... c'est plus réussi que la Philharmonie, par exemple.
Ah, c'est mieux de rentrer dedans que de passer à côté. Hein.
C'est moins bien que la scène musicale.
Peut-être, ça c'est, ton, c'est ton avis. Hein,
non, esthétiquement, c'est joli, mais musical.
En tout cas, c'est un projet intéressant.
Très, belle, ouais.
Très beau quartier.
Ouais, je pense que ça va pas. Eh oui, vous rigolez. Mais il faut s'implanter dans ces quartiers-là.
Bien
il faut
sûr,
ça bouge, il faut.
Ça bouge, ouais. Mais t'inquiète pas, ça bouge. Hein.
Ça bouge, ouais. Mais bon, le basket à Paris, j'ai un grand doute. Hein. On verra.
Pourquoi ?
Ah, parce qu'il y a eu plusieurs projets qui ont échoué quand même.
Ouais, c'est plutôt
son public quand même.
Ce qui est difficile, c'est de trouver son public. Et puis, il faut être toujours bon. Sinon,
peut-être qu'il faudrait pour que ça marche.
Oula.
Dis-moi.
Que ça soit le PSG. Avec
PSG
les Qataris qui rachètent
mais la structure. Exactement.
Il y a eu le PSG. Mais moi, je pense que
le hand de PSG, c'est un succès à Coubertin, c'est blindé à chaque match.
Mais c'est PSG pas basket. Le thème du jour. Hein.
Non,
on va vite arriver au thème du jour, mais je te dis ce que j'en pense. Pour que ça marche, il faut qu'il fasse devenir un LeBron James en fin de carrière, un mec comme ça. Vraiment, je te dis franchement. Peut-être pas lui, mais il faut un truc de ce niveau-là, une méga star.
De Marcus Cousins.
Un mec. Bon, voilà. On en fera peut-être un épisode un jour. Aujourd'hui, on va parler des Milwaukee Bucks. Les Bucks à la ramasse, à qui la faute ? Ça, c'est le premier débat. Ensuite, nous allons parler de Damian Lillard. Lillard joue-t-il gros pour sa carrière aux Bucks ? Et puis, comme ça va débattre évidemment de Doc Rivers, eh bien vous allez me dire dans la partie historique qui est pour vous l'entraîneur le plus surcoté de la NBA. Voilà, l'entraîneur à qui on prête des qualités qu'il n'a peut-être pas. Je vous préviens tout de suite.
Il y a des surprises, attention.
Ce débat peut faire l'objet de malaise chez vous, à la maison. Donc, gardez bien un téléphone à proximité, voire un défibrillateur.
Moi, j'ai choisi Jean-Louis Gasset.
Rendez-vous tout à l'heure pour ce débat qui va faire date, je le pense. Et puis, bien sûr, j'espère que vous avez révisé vos Milwaukee Bucks, puisque le quiz est consacré à Milwaukee. Une franchise historique,
une
franchise légendaire. Il y a toujours un petit peu
d'animaux,
mais sûr, ouais. De culture G.
Difficulté
du quiz. Je dirais qu'elle est moyenne plus.
Préparé hier.
6 sur 10, préparé hier, absolument.
Un lundi soir.
Voilà, donc en général, il y a plus de travail quand c'est préparé le lundi soir.
Donc le mardi à 11h45.
Quand ils sont préparés le mardi matin, c'est plus bâclé. C'est parti pour un Basket Time spécial Milwaukee Bucks.
Now, Milwaukee looks like straight track. Giannis Antetokounmpo is your star with Damian Lillard. You ain't supposed to be losing, you know, a 1-4 record over the 5-game stretch.
Go, Damian Lillard. There you go.
Giannis, touch the five-serve Raptors.
Milwaukee Bucks have now fallen to 3-7 under Doc Rivers as their new head coach.
Lillard trying to spring free, looking for a call, and he gets it.
Life ain't the same without Mike Budenholzer, the coach, or Drew Holiday, the point guard, is it?
Chris Middleton, retreat dribble, and then finds Giannis.
The good news there, you know, is very fixable because you have guys that want to get it right. Listen, Dame and Giannis have played 40 games together in their life. In their life.
Giannis, their full life. Steam ahead, count the bucket in the way that only Giannis can.
Alors les Milwaukee Bucks, donc les champions 2021 qui étaient parmi les favoris pour le titre en début de saison, sont dominés pour le moment. Ça reste honorable avec une troisième place à l'Est, mais ils ne font pas la même impression et loin de là que Boston évidemment. Et pourtant, on se souvient que le move Damian Lillard avait été salué de tous. Peut-être ont-ils trop perdu en lâchant Jrue Holiday. Ça va faire évidemment partie du débat, mais qui est responsable de ces difficultés ? Le coach a déjà sauté après 43 matchs. Adrian Griffin remplacé par Doc Rivers qui a très bien commencé une série de 7 défaites en 10 matchs pour ses débuts. Alors les Bucks en difficulté, à qui la faute ? Arnaud, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe exactement ?
Il y a un constat assez simple, c'est une équipe qui ne défend pas assez, 22e défense de NBA avec des defensive rating et une moyenne de points aux alentours de 119 points encaissés en moyenne, donc c'est quand même bien en dessous des standards élevés de cette ligue. Récemment, là, sur la série de défaites de Doc Rivers, il y a eu un 123-97 encaissé à Miami avant le All-Star Game, avec un absent qui est quand même important, c'est Chris Middleton. Ils ont aussi perdu à Memphis, où Memphis est une équipe plus que décimée, c'est pas l'équipe B, c'est l'équipe C. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est le duo Giannis-Lillard qui ne marche pas ? Eh bien, quand ils sont ensemble sur le terrain, Milwaukee est à plus 10 au plus minus, qui est finalement dans la fourchette haute des duos de stars dans cette ligue, la meilleure étant Paul George et Kawhi avec plus 14. On écoute Giannis Antetokounmpo interrogé au moment du All-Star Game sur la passe de son équipe et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça aille mieux pour les Bucks.
Now, things that we have to do to get back on track, I say, we have to get healthy from Chris Middleton, but that cannot be our excuse. We've played 56 games, which is a lot. We've played a lot of minutes. We got to take care of our body, try to build new habits, you know, and play good basketball and try to win some games. But yeah, it's been a very, very, very hard season.
Donc toi, tu crois que tous les mecs qui s'intéressent au basket sont bilingues. Et donc
je vais traduire. Je vous laisse profiter de l'accent grec.
Un anglais facile à comprendre.
Non, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'en profiter quand même de ce petit accent grec.
Donc pour lui, pour revenir sur de bons rails, c'est être en bonne santé. Il nous reste une vingtaine de matchs. Être en bonne santé.
Il mentionne Middleton.
Chris Middleton était absent, mais ça ne doit pas être une excuse. C'est avoir de nouvelles habitudes et puis penser au corps. C'était vraiment son état d'esprit. Il parlait pas forcément d'un point de vue basket, c'était plus être juste en bonne santé et gagner des matchs. Et il a reconnu quand même que c'était une saison très difficile parce que tu l'as dit, changement de coach avec Adrian Griffin quand même viré à 70% de victoire, ce qui a valu à Doc Rivers de récupérer son siège de coach All-Star. Pourquoi il a été viré ? Mauvaise alchimie entre les vétérans et le jeune coach. Enfin, quand même, Giannis qui n'hésitait pas quand même à changer quelques plays lors des temps morts. Doc Rivers est donc arrivé depuis 10 matchs, bilan négatif. Les Bucks restent néanmoins largement dans le coup avec 35 victoires et 62% de succès. Mais attention au calendrier parce que franchement, sur la dernière partie de saison, il va y avoir des déplacements. Là, ils vont enchaîner ce week-end à Minnesota, à Philadelphie. Ils vont faire un road trip à l'ouest avec 4 franchises californiennes, 2 fois Boston, 2 fois le Thunder et encore des matchs face aux Suns ou aux Knicks. Alors la qualif en play-off, elle est quand même plutôt bien partie. Mais attention quand même parce qu'on sent que la pente est glissante.
Alors Steve, à qui la faute ? À qui tu attribues cette saison moyenne, on va dire ? C'est pas une mauvaise saison, hein.
À beaucoup de monde. Déjà, le choix de départ d'Adrian Griffin est mauvais et pas bon. Pas pour dire qu'Adrian Griffin est un mauvais coach, mais aujourd'hui, quand tu fais venir Damien Lillard et que tu te dis que tu as une fenêtre de 2 ans pour être champion et que le but ultime, c'est être champion NBA, tu ne peux pas te permettre de prendre un coach novice. Il te faut un mec qui connaisse la ligue, un mec qui connaisse les superstars, un mec qui maîtrise le jeu NBA.
Donc Doc Rivers.
Tu prends Doc dès le début de la saison.
Moi, je n'ai pas compris déjà pourquoi on s'était séparé de Mike Budenholzer, qui était quand même le coach de l'année, qui a ramené un titre. Alors lui, il était un petit peu fatigué, usé. Ouais. Il avait perdu son frère. Je crois que ça a été dur émotionnellement, mais il y avait des coachs. Nick Nurse, c'était quand même un coach prétendant pour aller aux Bucks. Et on me dit que c'est quand même Giannis qui a fait quelques rendez-vous. Quand tu es le patron d'une équipe, tu es quand même concerté sur le choix du coach. Et Giannis a quand même poussé pour Adrian Griffin pour ensuite le pousser un petit peu vers la sortie.
Pour faire les systèmes.
Oui, voilà. Après, moi, j'ai été hypé par le trade d'Amélie Lillard. Giannis a une part de responsabilité.
Ouais, voilà, tu mets quand même une part de responsabilité sur Giannis.
Clairement, parce que quand tu es le leader d'une franchise, tu es concerté sur toutes les décisions. Donc celle-là, elle n'est pas bonne. Maintenant, j'ai été hypé, moi, par l'arrivée de Damien Lillard, parce que je pensais que ça allait fonctionner merveilleusement bien, même si tu t'affaiblissais défensivement pour faire remonter l'attaque.
Après, tu as entendu la stat de Arnaud, plus 10 quand ils sont ensemble sur le terrain, c'est pas cata. Hein.
Oui, mais Damien Lillard ne défend pas. Damien Lillard ne défend pas quand il perd contre Memphis, il est cata défensivement. Les deux vont pas bien ensemble. Alors, trouvez-moi un coach qui est capable de faire jouer les deux ensemble. Pour l'instant, c'est pas le cas. Après, c'est une saison paradoxale parce que tu as 2 mecs All-Star. Giannis et Lillard sont All-Star et sont starters les deux. Le bilan, je rappelle, quand ils sont champions, ils sont 3e de la conférence S aussi quand ils sont champions en 2021, derrière Brooklyn et derrière les Sixers, il me semble. Sauf que sur les 40 premières journées, tu as le calendrier quasiment le plus facile de toute la ligue. Ça veut dire que tu joues pas bien au basket, mais tu gagnes des matchs parce que tu joues des équipes pas bonnes. Et Arnaud l'a dit, la deuxième partie là, qui arrive après le All-Star Break.
Bon courage. Compliqué.
Calendrier, c'est le 3e ou 4e calendrier plus compliqué par rapport aux équipes qui ont plus de 50% de victoire. Donc moi, je demande à voir. Il y a une erreur dès le départ sur le choix du coach.
Voilà, choix du coach en premier. Oui. Et Giannis qui n'a pas trop aidé.
Et puis bon, un Lillard qui est pas opérant défensivement.
Je sais pas si on peut appeler court. Bon, à l'intérieur, ça se repose énormément sur Brook Lopez. Là, t'as aussi un peu.
Il joue à 9, mais après 9, il y a beaucoup d'équipes qui jouent à 9. Hein. C'est pas dérangeant non plus.
Mais tu sais, quand t'as un absent ou deux, là, tu vois, quand Middleton n'est pas là.
Ça change. C'est Jake Roder qui part.
Ouais. C'est pas pareil.
Bah exactement. C'est l'important. C'est, je trouve que là, ils sont totalement éloignés de l'ADN qui avait fait deux des champions. Sachant que j'ai regardé l'effectif de 2021, il n'est pas forcément beaucoup supérieur non, et pas... à celui, et pas énormément différent aussi. C'est vrai que tu as Jrue Holiday qui est quand même le paramètre.
C'est peut-être ça la clé, non ? C'est la défense de Jrue Holiday, non ? Peut-être, Kylian.
Là, il l'a dit Arnaud, c'est la 7e équipe qui encaisse le plus de points en NBA. Évidemment que la défense a changé quand on a un Jrue Holiday qui montait comme un chien sur chaque joueur en face sur le périmètre, c'était beaucoup plus facile à défendre. Maintenant, il n'y a plus personne, c'est Brook Lopez qui est obligé de sortir sur le périmètre et forcément à l'intérieur, il n'y a plus personne qui défend. Donc il y a forcément un problème de construction dans cette équipe, que ce soit au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, il n'y a plus aucune identité par rapport à ce qui faisait des Bucks, des champions ou des contenders il y a encore un an ou deux.
Parce qu'on ne va pas les condamner tout de suite non plus.
Mais c'est une équipe qui prend beaucoup de points dans la raquette et Kylian l'a dit, dans cette équipe-là, tu as quand même deux défenseurs d'élite. Hein. Yannis Antetokounmpo et Brook Lopez font partie des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue. Sauf que quand ta ligne arrière défend mal, qu'elle ne fait pas les efforts pour surpasser les écrans, c'est-à-dire que les grands sont obligés de sortir plus haut, Brook Lopez, il fait 2-16.
Tu ne peux pas le
défendre derrière la ligne à 3 points parce qu'après, il n'y a personne. C'est une vraie problématique. Yannis, si tu regardes la saison de Yannis Antetokounmpo, elle est presque historique pour lui. Il a les meilleurs pourcentages en carrière. Yannis Antetokounmpo, il a plus de 60% de réussite. Son ratio est fantastique. Tous les soirs, il met 30 pions. Sauf qu'on pensait qu'avec l'arrivée de Damien Lillard, ça allait délester un peu Yannis Antetokounmpo du scoring. Il y a une deuxième option.
Non,
c'est pas le cas. Yannis, quand les Bucks gagnent, c'est parce que Yannis fait un match de mutant. Clairement. Et là, l'apport de Damien Lillard offensivement, il compense pas la perte de Jrue Holiday. Si tu perds Jrue Holiday, mais que Damien Lillard est à 30 points par match, il a 40% à 3 points, et que ton night rating, la différence entre l'offensive rating et le defensive rating, il est à plus 5 ou plus 6, c'est pas grave, très bien, ça compense. Mais là, c'est pas le cas. Ils ont un night rating qui est moins bien que l'année dernière avec Jrue Holiday, alors que tu es censé avoir progressé offensivement. Donc, il y a un problème. La connexion entre les deux ne fonctionne pas. Il y a zéro pick and roll joué Lillard Antetokounmpo, alors que normalement ça doit être une arme fatale.
Et pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas ? Parce qu'il y en a un des deux qui boude ? C'est quoi l'histoire ?
Mais parce que le problème, c'est que Lillard, toute sa vie, a monté le ballon et que là, parfois, Yannis, eh ben, il se retrouve à monter le ballon. Que Doc Rivers, il est arrivé.
Rivers, parlons-en. Est-ce que c'est la solution ? Non. Est-ce que c'est un coach expérimenté ?
Doc Rivers a été embauché à la base pour conseiller Adrien Griffin quand il était coach.
Il faisait des analyses à la télé.
C'est le Fabien Galtier des Bucks.
Tu sais, comme Arène avec coach.
Il a dit non direct, Kylian, sur Doc Rivers.
Non, j'ai dit non, mais plus que pour son niveau de coaching, c'est aussi pour sa mentalité. Il est arrivé avant le All-Star Break et il se plaint déjà d'être arrivé avant le All-Star Break. Il se trouve des excuses.
C'est monsieur. C'est mieux que je vienne après.
Oui.
Parce que le calendrier était pas terrible.
Là, il y avait un road trip trop compliqué. Je voulais pas arriver maintenant, je voulais arriver après le All-Star Break. Mais en fait, prends ton équipe telle qu'elle est, ménage-la telle qu'elle est maintenant et arrête de te plaindre. Toujours à se trouver des excuses. C'est pas.
C'est pas un bon coach.
Mec, là,
il nous écoute pas, vous pouvez y aller. Hein.
Je crois que le crédit.
C'est pas comme quand on fait un débat sur Claude Bergeau, sur Jean-Denis Choulet. Hein.
Le plus gros disque, c'est une pipe, quoi.
Le crédit qu'il a gagné avec son titre à Boston, ça y est, il est épuisé.
Ah ouais. C'est un moment. Hein.
Ça fait parce que Doc Rivers.
Ça fait 15 ans.
Doc Rivers, ils ont été fatales.
Doc Rivers a eu que des équipes d'élite, Pierrot. Les Clippers avec Lob City, Blake Griffin, Dede Jordan, Chris Paul, équipe d'élite, pas une finale de conf. Le mec se retrouve à Philly avec Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxey, Tobias Harris. Nul. Et là, le mec revient à Milwaukee, une équipe prétendante NBA.
C'est incroyable qu'on fasse encore appel à lui. C'est se dire, on n'a vraiment pas d'idée. C'est un côté, tu parlais de Jean-Louis Gasset à l'OM, c'est un peu
Mourinho,
le même idée.
Bon. Il a été au top, et puis il a encore sa chance.
On remet en cause aussi toute son importance, parce que Doc Rivers, c'est quand même plutôt dans la catégorie des meneurs d'hommes que des grands tacticiens. C'était le cas lors du titre de Boston en 2008.
Mais là, il leur faut un tacticien, le problème.
Sauf que quand tu vois l'équipe de Boston en 2008, tous les vieux Briscard.
Il y a trois Hall-of-Famers dans l'équipe à Boston.
T'as les Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen, Rajon Rondo, Kendrick Perkins. Ça se gérait tout seul. Fallait juste garder un peu cette alchimie. Mais cette équipe, elle s'auto-gérait quelque part. Et Doc Rivers, il a déjà dit, cette déclaration m'a troublé. Je ne pensais pas que ça serait aussi dur. On sait que t'es arrivé où, en fait.
Si je savais coach alors qu'ils étaient à 30-11, c'est qu'il y a un problème, mon grand. Et lui, passait, lui, en fait, lui, passait, il a dit le roster, il dit c'est cool, je vais m'asseoir sur le banc.
Oh, dans
la lila, ça va gagner des matchs. Après, il a dit, ah putain, c'est, finalement, il faut
bosser.
Il faut coacher.
Bon, très bien. C'est un spécial Milwaukee Bucks et nous allons désormais ouvrir le dossier Damian Lillard.
2024 Kobe Bryant MVP trophy goes to Damian Lillard.
Lillard lines it up and Lillard reins it in. Here, Damian Lillard taking on LeBron James. Mm-hmm. Lillard keeps cooking.
Yeah, Damian Lillard with a 35-footer.
A logo three.
Yeah.
Amazing run. Here's Lillard again. Another deep three.
Stop. Oh. And Dame shooting from half court.
As well. His second half-court shot of the game. Tires. That was the Motor Speedway flat tire. Oh my God.
Y'all see this?
Damian Lillard.
Y'all see this? Did y'all see this?
Dame Lillard.
Dollar, thankful for the struggles, got that armor real.
Alors, Damian Lillard joue-t-il gros aux Bucks? C'est le débat qu'on va faire tout de suite. Est-ce qu'il joue gros à titre personnel pour sa carrière, pour l'image, la trace qu'il laissera en NBA? C'est quoi le truc qu'on vient d'entendre là, le MVP Kobe Bryant Trophy là?
C'est le All-Star Game.
Il a été MVP du All-Star Game ce week-end là. Un truc qui n'a aucune importance dans une carrière, non?
Il est entré dans l'histoire en faisant le tir à 3 points plus les...
En plus, il a participé à un match historique, il a eu 400 points.
Ouais. on va en dire un mot quand même, mais c'est, il faut trouver une réforme intéressante de ce All-Star Game.
Est-ce que c'est possible d'en trouver une dans une saison de 82 matchs où les joueurs ont juste envie de...
Faut tout arrêter.
Oui, bien sûr.
Laissez-leur une semaine de vacances.
Carrément.
Une semaine de vacances, merci, reposez-vous bien et rendez-vous dans 8 jours.
On shoot à 3 points quand même, non, un petit truc.
Oui, ou alors, je sais pas, All-Star Game des vacances. Chacun se filme, chacun se filme dans son lieu de villégiature. Je sais pas.
Le pic de George, c'était quand même pour l'affrontement entre Ionescu et Curry. C'est pas du tout pour les matchs ou quoi. Il faut qu'il y ait du renouveau. Ouais. Quelque chose qui.
Le match en lui-même, il est mort.
Non, ça a aucun intérêt.
Je suis même pas sûr qu'on parle de les Américains contre les Européens. Oui, voilà.
Parce que t'as vu Doncic et Jokic, c'était peut-être les deux plus honteux du week-end. Le seul truc, c'est que tu mets une carotte sportive.
Non.
Conférence S qui gagne, l'équipe qui est en finale alors NBA, elle a l'avantage du terrain. Ouais, mais après, imagine, t'as des transferts.
Puis
100 millions de dollars pour le vainqueur, là, ils vont jouer.
Hein. L'autre problème, tu peux dire que ça peut aussi enlever de l'intérêt à la saison régulière, puisque tu as moins d'intérêt, du coup, à être premier.
Aussi.
Donc, c'est pas forcément la solution miracle.
Non, mais ceux qui ont la solution, ce sont les joueurs.
Alors, en tout cas,
qui joue au basket.
Celui-là, il a pris ce match à cœur, Damian Lillard, puisqu'il a mis quand même 39
Première
points.
Première fois qu'il était starter.
Et qu'il a été le héros du match. Il fait partie de ces très grands joueurs, parce qu'on peut dire que c'est un très grand joueur, je pense qu'il n'y aura pas de débat là-dessus, qui n'ont pas été servis par leur franchise. Peut-être un petit manque de chance. 11 saisons à Portland, un Portland qui n'a jamais été en position d'être champion, on est d'accord. Et donc, à 33 ans, il a décidé de tenter sa chance aux côtés de Giannis pour un titre. C'est un parcours qui ressemble à celui de Kevin Garnett, sauf que Garnett, bon, il a eu sa bague avec Boston. Alors, est-ce qu'il joue très gros, selon vous, Damian Lillard, à Milwaukee pour la trace qu'il laissera dans l'histoire de la NBA, Arnaud ?
On avait fait un débat à qui on donne le ballon pour gagner un match alors qu'il reste 3 secondes. On avait dit que Damian Lillard était très bien placé. C'est un joueur fantastique, mais est-ce que c'est un leader fantastique ? À Portland, il s'est quand même démené, on ne peut pas lui ajouter ça. Il est tombé notamment sur les Warriors en finale de conf en 2019. Manque de chance, il a eu un duo avec LaMarcus Aldridge et tout. Mais je trouve que, alors qu'il est un tournant de sa carrière, avec son énorme contrat, ça l'handicape quelque part, parce que là, il a eu quelque part la chance que Milwaukee fasse un gros mouvement pour le faire venir, parce que
Lui voulait la Miami déjà.
Oui. Ouais. Souviens-toi du drama un peu. Milwaukee a sacrifié beaucoup de tours de draft, de premiers tours de draft pour lui. Où est la remise en question chez ce garçon ? T'as l'impression que c'est le cliché de joueur très important NBA, d'un joueur iconique, mais qui ne se remettra jamais en cause. Et pourtant, il n'a toujours pas ce titre de champion. Je ne sais pas ce que va devenir de Damian Lillard avec l'âge qu'il va prendre en âge, son niveau va décliner. Comment il peut se réinventer ? Je ne sais pas du tout, parce que j'ai l'impression qu'il fera toujours la même chose.
Mais au-delà de se réinventer, c'est lui, en fait. C'est-à-dire, sa carrière est faite ou est-ce que son passage à Milwaukee change tout, selon vous ?
Moi, je pense que si c'est un échec à Milwaukee, ça va entacher la carrière de Damien Lillard, parce que c'est quand même un blockbuster trade. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur comme ça bouger, rejoindre une équipe qui était déjà favorite pour le titre NBA.
Par Kevin Durant,
voilà,
peut-être.
Au début de saison, tout le monde est unanime pour dire que les Bucks sont favoris numéro un pour être champion NBA et qu'il n'y a pas d'arme anti-Lillard, Antetokounmpo, que c'est le duo qui fait le plus peur dans toute la ligue. Aujourd'hui, force est de constater que Damien Lillard. On est, alors attention, hein, Damien Lillard il fait une bonne saison. Il est All-Star, il est starter.
Et les pourcentages, mais, il y a deux, trois trucs quand même.
Mais c'est sa pire saison. Mais c'est sa pire saison en termes de pourcentage. Le vrai problème de Damien Lillard aujourd'hui, c'est qu'il ne met pas les tirs à 3 points. Alors qu'il est venu pour mettre des tirs à 3 points. 3 sur 13 contre Memphis, tu perds. 3 sur 13 à Portland, tu perds. 2 sur 10 contre Cleveland, tu perds. 1 sur 8 contre Utah, tu perds. Et à chaque fois, ce sont des défaites et des tirs grands ouverts. Il a des tirs grands ouverts Damien Lillard. Il ne les met pas dedans. Et on attend d'un mec...
Son prime est passé.
Je ne comprends pas comment à 33 ans, tu peux complètement décliner comme
quand
ça.
Quand tu filoches toute ta carrière,
mais
tu dois filocher.
Mais comment c'est
carrière.
Possible en une saison de perdre
même,
10 dizaines de pourcentages.
Même vu Curry faire impossible. Des matchs abominables à,
oui,
à 3 points cette saison.
Des matchs.
Oui, des matchs.
Mais pas des saisons.
Là, c'est sa plus mauvaise saison.
En 2024, il a 30%, 42%. Il avait arrosé il y a deux ans à 40%, mais c'était la saison où il était blessé, hein, notamment après les JO, où il avait problème d'adducteur. Mais oui, tu comprends pas quand tu vois les tirs ouverts, les façons. Enfin, c'est
et
un
puis,
joueur.
Et puis,
pas qu'il est méconnaissable.
Non,
mais...
non, attention. Il voilà. faut pas se passer pour un sous-fif non plus. Hein, il fait. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il sait pas vraiment quel est son rôle à Milwaukee. Est-ce que c'est lui qui doit monter le ballon, annoncer les plays, créer, ou est-ce qu'il est là pour compléter Giannis Antetokounmpo? On a l'impression que, en fait, c'est l'un après l'autre. Il y a pas les deux en même temps. Il y a pas encore d'osmose. Alors peut-être que Doc Rivers va amener ça, parce que j'ai entendu dire qu'il avait incité depuis son arrivée sur la création au jeu à deux. Mais il y a pas vraiment d'osmose entre les deux. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'a pas rentabilisé. Enfin, les Bucks ont quand même sacrifié Jrue Holiday, qui était une icône à Milwaukee,
on va en parler.
Qui est arrivé, qui a été champion NBA, qui avait une âme, qui était unanimement reconnue dans l'équipe par son tempérament, par son leadership, par sa...
Et qui, à Boston, a apporté tout ça en plus.
Ouais, à Boston, a apporté tout ça.
C'est ça qui est terrible.
Pour l'instant, il n'y a pas le retour sur investissement.
C'est ça qui est terrible.
Il n'y a pas le retour sur investissement. Parce qu'ils ont choisi, de gagner par l'attaque. Quand tu fais venir Damien Lillard, c'est tu gagnes par l'attaque. Mais pour l'instant,
l'attaque, ça marche pas.
Pour l'instant, c'est pas le cas.
Est-ce que son passage peut changer la trace qu'il laissera en NBA, Kylian?
Oui, parce qu'on a l'impression qu'il subit complètement le transfert qu'il a connu et que, mine de rien, il ne prend pas conscience de ce qui s'est passé avant dans sa carrière et de toutes les saisons qu'il a réussi à faire où il était à un niveau stratosphérique. Il arrive là, il est complètement perdu. Alors pourquoi? Oui, forcément, ça va entacher la suite de sa carrière. Mais moi, j'ai une question pour Steve. Il a aussi parlé de son divorce. Il a des difficultés extrasportives au-delà.
Même ça, c'est les femmes.
Bien sûr, c'est les femmes. Justement, Steve, c'est pour ça que je veux te poser la question.
À qui, hein?
Est-ce que ça...
J'ai jamais connu ça, moi.
Non, mais est-ce que ça a vraiment... Enfin, est-ce que ça peut expliquer tout ça? Les déboires qu'il peut avoir à côté.
Il faut jamais négliger le côté vie privée quand tu as des problèmes à la maison, quand tu es en plein divorce. Pierrot, tu sais de quoi je parle?
Non, je sais que des fois, Letty, elle ne veut pas regarder l'amour et d'entrée. Ça te saoule.
Non, mais clairement, la vie privée peut avoir un impact sur les performances, sur l'épanouissement. Quand tu as des problèmes à la maison, c'est sûr que ça peut être compliqué. Mais ça n'explique pas les trous d'adresse à 3 points d'Amélie Lillard. Je veux dire,
lui, il ne pense pas à son divorce. Quand
voilà, quand tu prends un tir, tu ne penses pas au chèque de 8 millions que tu vas devoir balancer.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a ces sommes-là. Là-bas,
il y a des sommes pour ça. Mais ça n'explique pas, les trous d'air qu'il a au
principe. C'est pas la pension 100 balles par mois, là.
Non, mais je sais pas, moi, alors, je le sens pas en détresse, je le sens pas triste en fait.
Alors attention,
mais si jamais sur les deux ans, parce que il faut aussi se rappeler pourquoi Milwaukee fait ce trade, parce que Giannis a mis quelques coups de pression parfois aussi en conférence de presse en disant attention,
si vous bougez pas, je m'en vais.
Je suis pas sûr de prolonger, je suis pas sûr de faire ma vie à Milwaukee si la franchise ne fait pas en sorte que chaque année on soit en mesure de jouer le titre NBA. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un coup pour être champion dans les deux ans. Ouais. Donc si jamais ça marche pas,
33 ans, Lillard, hein.
Si jamais ça marche pas, Giannis il pourra toujours dire qu'il a gagné lui. Ouais. Il est champion avec les Bucks. Mais Damien Lillard, si ça ne marche pas pour les deux ans, il aura l'étiquette de la lose.
À deux doigts de dire quand même, premier débat, deuxième débat, que Giannis est quand même une clé de voûte de ce qui se passe à Milwaukee, que ce soit dans les décisions du front office sur l'arrivée de Lillard.
Son frère dans l'effectif, il y a Thanasis. Rien que pour moi, alors on aurait peut-être pu le dire dans la première partie, mais Thanasis, mais c'est une honte que ce joueur soit en NBA. C'est franchement. Non mais c'est horrible.
Qu'est-ce qui te choque, Steve?
qui sont. Alors, bien sûr que c'est une énorme cheerleader. C'est un énorme cheerleader à Milwaukee. Sauf que les gens qui connaissent pas bien le basket se disent que Tanasi Antetokounmpo, il est nul à chier.
Mais
non, c'est faux. Il a joué au Pana en Euroleague. Il était un joueur très correct en Euroleague. Donc les gens qui le voient maintenant en disant mais qu'est-ce qu'il fait là, juste parce que c'est Antetokounmpo. Alors après il y a que veut faire le garçon. Est-ce que toute sa vie il va être le garde du corps Il va être le garde du corps de Yanis. Bon, c'est bien, c'est sympa. Mais est-ce que tu veux jouer au basket? Mais attention, c'est un vrai joueur de basket. Hein.
C'est oui, alors,
c'est pas uniquement un mec qui tourne les serviettes.
Pour revenir au sujet Lillard,
on fait une faute sur Yanis.
Jusqu'où peut-il reculer entre guillemets? Mais c'est-à-dire, est-ce que...
Ah, il peut shooter du mieux que
t'as. Non, je parle dans la hiérarchie des plus grands joueurs, des plus grands meneurs, on peut dire. Est-ce que, par exemple...
Est-ce qu'il va sortir du top 60?
Un Jrue Holiday, s'il est champion avec Boston, laissera une plus grande empreinte
non,
sur la NBA que Lillard.
Non. Il n'a pas été aussi scoreur, aussi... j'allais dire iconique sur tous les buzzer beaters qui marquent
différentes. Vous vous rendez compte que Pierre vient de soulever un débat intéressant.
Non mais je sais que c'est une question un peu provoque.
Non, je sais bien. Alors en termes de palmarès, en termes de chiffres, de points, de moyenne, Jrue Holiday sera toujours en dessous. Mais Jrue Holiday, il est champion avec Milwaukee. S'il est champion avec Boston, vous rendez compte que c'est un garçon qui, là où il est passé, a su faire gagner ses équipes. Est-ce que c'est pas être plus grand et plus fort qu'un mec qui met des points toute sa vie? Je sais pas, on se pose la question aussi.
Alors qu'on pensait que la seule limite de Lillard était son équipe. C'est ça qui est dur en fait.
Parce qu'à Portland, on a souvent pour protéger. Quand il fait une finale de conf avec Portland, on dit c'est incroyable. Il emmène une équipe de briques et de brocs en finale de conf, c'est exceptionnel. Et on l'a souvent protégé pour dire Portland, c'est pas une franchise sexy. Ils ont jamais eu de Lillard, il n'a jamais bien été épaulé. CJ McCollum, c'était un bon joueur, mais ils ont rentabilisé au max le duo. On lui a sûrement trouvé des excuses. Là
il a plus d'excuses.
Quelle excuse on va trouver à Damien Lillard s'il n'est pas champion avec Bucks?
Il a plus de Jrue Holiday.
Ouais, mais ils ont jamais joué ensemble.
Si, dans Team USA.
C'est un spécial Milwaukee Bucks. C'est maintenant on va.
Il a été champion. Jrue Holiday, il a fait champion olympique.
Il sera peut-être dans la sélection. Je pense que Jrue Holiday, ça fait partie des joueurs que Steve Kerr serait
pas
très inspiré d'emblée.
Tu penses qu'il n'a pas besoin de vacances,
Villeneuve-d'Ascq?
Tu penses qu'il n'a pas besoin de vacances, Jrue?
Oui.
On va s'occuper du coach maintenant dans ce spécial Milwaukee Bucks.
Sometimes you have plans and they don't work.
If Doc Rivers does not get it together, this will be the last head coaching job he gets in his NBA career.
D'Antoni was a disaster with the Knicks in Los Angeles. D'Antoni was horrible with the Lakers. Where D'Antoni looked helpless, he had Melo in New York and Kobe in LA.
Doc Rivers, Orlando and Boston and the Clippers and the Philadelphia 76ers and now the Milwaukee Bucks, one title in that period
you
of time.
You understand why the Bucks fired Jason Kidd?
But after mediocre season after mediocre season, it was time to tell Giannis to fire him.
I just felt like we could have been a better team if we attempted to play defense.
Called him Mike Antoni, no D and not many W's.
Alors, qui sont les coachs les plus surcotés de l'histoire? On est à peu près d'accord pour dire que Doc Rivers donc, a entamé largement son crédit de champion 2008 avec Boston. Coach critiqué, considéré comme surcoté par beaucoup. Qui sont les autres? Qui sont ceux qui, selon vous, ne méritent pas leur réputation, Arnaud Valadon?
J'ai failli prendre Steve Kerr.
C'est bien, c'est un bon choix ça, Steve Kerr.
Sûrement choqué tout le monde.
Bravo.
Champion, bien sûr.
C'est surtout...
juste sur la foi de Team USA cet été.
Alors franchement, oui, s'il n'est pas champion cet été, je le mets...
Non, mais tu as voulu choisir parce que aux Philippines, il était honteux.
Pas que, je trouve que...
Ouais, pas que, mais oui.
Alors, je trouve qu'entre le Steve Kerr, je vais prendre un peu avant le dernier titre et depuis le dernier titre, là où je trouve qu'il ne prend pas de décision, ça y est, il s'est enfin décidé à mettre Klay Thompson sur le banc, mais c'est tardif. Draymond Green, la situation, il est quand même largement responsable. Il y a Kuminga, il ne le fait pas jouer. Moi, je suis un peu... perplexe, et après en faisant les pour et les moins, il a quand même pris les Warriors juste après Mark Jackson et il en a fait une dynastie, il les a bien lancés et après Kevin Durant est arrivé, donc je trouvais quand même très dur.
Avant que tu démarres sur ton choix, jouer à Steve, non, je sais pas s'il opine ou s'il essaie de...
Non, je dis ça aurait été dur de prendre Steve Kerr comme
Je me suis rappelé de tout ce qu'il a fait, je peux pas pour l'instant, après à voir comment ça se termine avec les Warriors. Non, j'ai pris Jason Kidd.
Alors, Jason Kidd.
Jason Kidd, joueur légendaire, monsieur triple-double, tout ce que vous voulez. En carrière, il est quand même à 51% de victoires seulement, alors que ça fait quand même presque 10 ans qu'il est dans la Ligue. Il avait démarré à Brooklyn avec le projet très bling-bling. Bon, éliminé en play-off, on va dire que c'est l'apprentissage, on ne va pas lui en tenir rigueur. Il arrive à Milwaukee, il faut s'en souvenir. 4 ans à Milwaukee, où finalement, il se fait virer au cours de l'année 2018 et Mike Budenholzer arrive 6 mois après. Ah bah, une fois qu'on a viré Jason Kidd, on est champion 3 ans après et les bilans, on a presque pris 10 victoires chaque saison par rapport entre le bilan de Jason Kidd et le bilan McDonald's.
Tu te rappelles du bilan des victoires des Bucks avant que Jason Kidd arrive? 15 matchs, ils ont gagné.
Oui.
Là, il fait les playoffs la première année en gagnant plus de 40 matchs. Donc ça veut dire que c'est la première fois dans l'histoire qu'un coach rookie fait les playoffs back-to-back.
Mais tu vois l'équipe aussi qu'il a
c'était
fait.
Une équipe très jeune.
Équipe très jeune.
Voilà.
Et après, tu après vas parler de Dallas, c'était pas non plus.
Tu vas parler de Dallas et je vais le défendre. Hein.
Tu vas le défendre. Assistant aux Lakers, où il y a un titre notamment dans la bulle, mais bon, il n'est qu'assistant. Et les Mavs, depuis 3 ans, première année, bon, coup de finale de conf contre les Warriors.
C'est bien, non ?
Jalen Brunson, Kristaps Porzingis,
c'est
hyper.
Bien,
pour l'instant, on ne comprend pas.
L'année dernière, c'est quoi les Mavs ?
Les dernières ?
Oui.
Ils ne font pas les playoffs.
Voilà, ils ne font pas les playoffs. C'est quand même pas terrible en termes de progression. Hein.
Eh, on découvre une nouvelle personnalité chez Arnaud, un peu plus cassante.
Et cette année, 7e. Pas non plus. Alors, c'est très serré, ça
d'accord,
peut bouger.
Attends. Les Mavs, ils ont une équipe pour être le top 4 de la Conférence Ouest ?
Alors là, il y a débat. Tu as quand même. Certains me disent, franchement, ils n'ont pas d'intérieur. Alors là, ils ont un peu bougé. La grève Grant Williams, ça n'a pas pris. C'est sûr que si tu avais Dwight Powell ces dernières années. Mais bon, tu as le jeune Derek Lively, ils ont plutôt bien drafté. Tu as l'association Kyrie et Doncic. Moi, je ne vois pas vraiment de plus-value du banc. Tu mets juste tes joueurs. C'est quoi la patte Jason Kidd ?
La patte Jason Kidd.
Mais est-ce que Doncic est coachable, entre guillemets ? Est-ce que tu as un mec qui peut encore.
Moi, je vois un coach qui est capable de faire des coups.
Est-ce que l'épanouissement,
sur une saison,
est-ce que l'épanouissement de Luka Doncic, qui est forcément dû à son talent, c'est pas aussi la relation avec Jason Kidd, qui était un meneur de jeu et qui, quand même, lui apprend un petit peu quelques trucs à ma.
Oh ouais, c'est peut-être aussi
franchement,
son talent.
Franchement, quand je vois ce qu'il.
Je suis d'accord avec toi.
J'ai jamais vu Jason Kidd faire ce que Luka Doncic faisait.
Jason Kidd était monsieur triple-double. Luka Doncic est monsieur triple-double aussi. Donc il y a une coïncidence.
Non. Tu t'inventes une histoire là.
Avec
quel autre coach il aura les mêmes stats, non ?
Ouais.
Bah, je sais pas. On en sait rien.
Je sais pas.
Attends. Non, mais le problème, c'est qu'il occulte la finale de conférence qui sort de nulle part avec une équipe qui est quand même très mauvaise.
On parle de surcoté, pas de pipe en bois.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, oui, bien sûr. Okay.
Là, pour moi, on voit un coach qui est capable de faire
surtout
des coups.
Surtout quand on sait quel choix tu as fait, parce que moi, je sais, on parle de surcoté, c'est-à-dire d'une réputation au-dessus de la réalité.
Je reconnais ce qu'il a fait. Il est capable de surfer un moment sur quelque chose qui se passe super bien, parce que alors l'équipe pipe en bois, Jalen Brunson, Luka Doncic, c'est pas non plus quand tu vois ce que fait Jalen Brunson derrière.
L'éclosion de Jalen Brunson, c'est qui ?
Après, ils l'ont pas gardé.
Ça se passe que ce soit de la faute de Jason Kidd.
Et Jalen Brunson, il devient un joueur hors norme ou à Dallas en playoff ? C'est qui coach ?
C'est Jason Kidd.
D'accord, quel poste de jeu ? Meneur de jeu.
Meneur de
une connexion avec les meneurs de
d'accord,
jeu.
D'accord, c'est ça. Et le fait qu'il n'y ait pas de playoff l'année dernière et qu'il est là, c'est juste parce que l'équipe
après,
est nulle.
C'est la fin.
Oui.
Non, mais écoute.
Moi, un coach, c'est de voir la progression, ce que tu es capable d'amener. Moi, je peux entendre sur son arrivée vraiment à Milwaukee, mais il finit par se faire virer. Et 3 ans après qu'il soit viré, ils sont champions. D'accord. Et le coach derrière a fait mieux que lui.
D'accord, bah écoute. Voilà. Moi, j'attends. Là, par contre, je vais le juger sur la fin de
et
saison.
Et 51% de victoire en carrière, je trouve ça quand même un peu faible.
Je vais le juger sur la fin de saison, puisqu'ils ont récupéré PJ Washington et Daniel Gafford. Donc ils ont une bonne équipe, les Mavs. J'ose espérer qu'ils finissent dans les 6.
Bon, t'as des bons arguments en tout cas. C'est retenu, c'était dans le thème. Kylian, qui est ton entraîneur le plus surcoté ?
Bah après Doc Rivers, j'ai l'impression que c'est un peu la thématique sous-entendue de cet épisode. L'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres. Dans ce credo-là, j'ai envie de parler de Mike D'Antoni, maître oui, parmi les maîtres forcément. Quand il s'agit de vouloir simplement marquer un point de plus que son adversaire.
Parce que entraîneur très coté quand même.
Entraîneur bah, très coté,
coté du moins.
Tu sais pourquoi tu ne peux pas être d'accord avec Kylian ?
Voilà.
Parce que Mike D'Antoni était coach de Boris.
Il était MIP.
Oui, mais justement, moi j'aimais bien cette équipe des Suns.
Bien sûr.
Mais peut-être que la limite, c'était le coach.
On l'adore, cette équipe des Suns. Il a réussi à révolutionner le basket dans le terme des 3 points dans le jeu, dans le terme du spacing, d'avoir mis en place un jeu vraiment up-tempo. Tout ça, c'est super. Merci d'avoir fait des équipes des rouleaux compresseurs en attaque. Mais derrière ça, bah, c'est à peu près tout. C'est surtout très efficace en saison régulière. 1200 matchs quand même, 56% de victoires, un peu moins en play-off, 110 matchs, 54 victoires, 56 défaites. Peut-être pour ça que les équipes de Mike D'Antoni n'ont jamais atteint les finales NBA et encore moins le titre. Après Phoenix, du coup, vous en parliez, et New York, D'Antoni, il a catché d'autres équipes avec un peu moins de talent et tout de suite, ça s'est révélé un peu plus compliqué comme les Lakers 2012-2013. Son nom a tout doucement commencé à tomber en désuétude à travers de la Ligue. On pensait alors pouvoir s'en débarrasser, mais non. Après quelques mois loin des bancs, D'Antoni a cru pouvoir renaître de ses cendres grâce aux Warriors. Imaginez alors une équipe qui arrive à allier un jeu rapide, basé sur du tir, de la circulation de balles et surtout, qui arrive à gagner des titres NBA.
le rêve ultime pour Mike D'Antoni. Et même si sa dernière aventure chez les Rockets aurait pu être couronnée de succès, bis repetita en 4 saisons, 4 qualifications en play-off, c'est super. Une défaite en finale de conf, 3 défaites en demi-finale de conf. Et D'Antoni s'en est allé. Alors rendons quand même à César ce qui appartient à César, ou plutôt à Mike. Ses 2 titres d'entraîneur NBA de l'année, en 2005 et en 2017. Mais encore une fois, pas très compliqué d'être renommé comme le meilleur coach au terme de la saison régulière. Une fois en post-season, il devient un entraîneur parmi tant d'autres, un entraîneur surcoté qui peut dire aussi merci à Steve Nash, Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire et James Harden qu'il a eu sous ses ordres dans les différentes équipes. C'est peut-être un peu réducteur, mais quand D'Antoni a tenté d'imprimer cette patte ultra-offensive sur la NBA comme un précurseur autoproclamé, la culture basket des années 2000 n'était pas vraiment prête pour ça. Et face à ça, il n'a jamais réussi à s'adapter, adapter son jeu, adapter son style de coaching pour aller chercher ce qui lui manque au terme de sa carrière, un titre.
Rappelez-moi avec les Knicks, c'était l'équipe de Carmelo.
Carmelo qui arrive en cours, Tyson Chandler.
Tyson Chandler.
Ouais. Okay. Amar'e Stoudemire, il l'avait retrouvé.
Mike D'Antoni, à un moment donné, il se fait voler.
Avec Phoenix, les Lakers.
Il se fait voler, il y a des blessures, il y a des arbitrages.
La suspension. Contre les Spurs, il devrait être champion. Il domine la série. Mm-hmm. Robert Horry met une énorme gifle à Steve Nash.
Ah, c'est la suspension.
Il y a Babak et Amar'e Stoudemire qui sont sur le banc, qui se lèvent, mais pas pour se battre, mais ils se lèvent, ils sortent du terrain. Les deux sont suspendus, ils se font poutrer, gros. Mmh. Il y a un vol à l'étalage.
Il y a des vols, mais ça empêche
pas. Aujourd'hui, je pense que ça aurait changé avec la façon dont la vidéo.
Mais attention, ils étaient quand même dominés psychologiquement par les Spurs. Hein.
Il y avait un problème face aux Spurs. Bruce Bowen qui me disait des coups de pute à Phoenix. Mais bon, il a permis à Steve Nash d'être 2 fois MVP quand même.
Après, le problème de ce genre de coach, c'est les fameux coachs dogmatiques qui ont une idée, qui ne s'adaptent pas et qui meurent avec leurs idées.
C'est à New York qu'on a vu le déclin possible.
C'est Gattuso.
Gattuso, je ne sais pas s'il mérite d'être cité dans ce débat.
Surcoté.
Surcoté, il n'a pas de cote, Gattuso.
Ouais, c'est pas faux non plus.
Il a rien de tout.
À l'argus, même pas.
Alors là, attention. Ça décroît. Attention.
Accrochez-vous.
Quel est le coach le plus surcoté de Stephen Brun?
Écoute, j'ai beaucoup cherché à trouver un coach surcoté. Et à un moment donné, je me suis arrêté sur un garçon. Je me suis dit, tiens, on va poser la question. Si un coach qui a 11 bagues ne serait pas surcoté.
C'est-à-dire le plus gros palmarès de l'histoire.
Je m'interroge sur Phil Jackson.
Il va falloir que tu sois convaincant.
Ouais, mais
t'as le droit, mais il va falloir que tu sois très convaincant.
Ça veut pas dire que je suis convaincu. Je pose la question. Vous allez me dire si la question peut se poser. En fait, Phil Jackson, je me pose la question si c'est vraiment un grand coach de basketball. Gestion humaine, management, j'ai aucun doute. C'est un grand monsieur et ça fait partie du boulot de coach, d'être capable de gérer des stars. Mais c'est un garçon qui arrive quand même aux Bulls en 1989, qui prend la suite de Duke Collins, qui vient de faire finale de conférence en gagnant 47 ou 48 matchs. Il prend une équipe avec Jordan, qui a déjà été MVP de la Ligue, et qui n'est pas encore à son prime, plus Scottie Pippen. Donc, deux fois ce repeat. Je me dis, bon, d'accord, tu mets l'attaque en triangle, mais l'attaque en triangle, c'est même pas toi. C'est Tex Winter, ton assistant, ton fidèle assistant, qui a mis en place, et toi, tu fais juste appliquer les trucs de Tex Winter. Bon, tu coaches Jordan, Pippen, 6 bagues, bravo, félicitations. Tu prends une petite année sabbatique. Et ensuite, tu vas aux Lakers, qui viennent de gagner 61 matchs 2 ans avant, et 31 matchs l'année du lockout. Tu prends une équipe avec le mec le plus dominant de l'histoire et inarrêtable, Shaquille O'Neal, et un jeune loup, Kobe Bryant. Et bien entendu, pour t'asseoir à côté de toi, tu reprends Tex Winter. Ah oui, il faut quand même être épaulé du mec pour l'attaque en triangle. Après, tu fais 2 saisons sans bague, tu te barres, tu reviens un an après aux Lakers, on te rappelle, tu fais 2 saisons moyennes aux alentours des 50%, et un matin, alors que tu es 5e de la conférence Ouest, tu ouvres la porte du gymnase, et il n'y a pas Gasol qui est là. Salut Phil, je viens dans ton équipe.
Ah bah oui. Contre Kwame Brown.
Voilà, bah bravo, contre Kwame Brown, bravo, le plus gros braquage. Donc il se retrouve avec Kobe Bryant, t'es pas au Gasol, et là il termine sur 29 matchs gagnés sur les 35 derniers, et reprendre 2 bagouzes. Moi, Phil Jackson, alors bien sûr qu'il y a un peu d'ironie dans le truc, mais j'aurais aimé, quand il arrive à New York, puisqu'après il arrête, il arrive en consultant, j'aurais aimé qu'il mette ses fesses sur le banc des Knicks. J'aurais aimé
avec une équipe plus faible.
J'aurais aimé le voir tenter. J'aurais aimé le voir faire progresser des joueurs. Je l'aurais aimé le voir faire des compositions techniques, faire des systèmes pour faire un jeu d'équipe sans avoir les meilleurs joueurs à chaque fois au monde dans son équipe. Ça m'aurait intéressé. Mais le problème, c'est que il a eu la chance d'arriver aux Bulls. On l'a pris. Il a eu une bonne équipe. Il arrive aux Lakers. C'est Pep Guardiola. C'est Zinedine Zidane.
C'est Zidane, exactement. Je vois où tu veux en venir. C'est Zidane.
C'est Zidane. C'est-à-dire qu'il arrive, il a les meilleurs à chaque fois.
On peut encore avoir un doute, tu veux dire.
Exactement.
Et était le compagnon de la fille du propriétaire des Lakers.
Parce que Zidane, il va revenir au Real avec Vinicius, Mbappé, Bellingham et compagnie. Il va encore tout arracher.
Alors que Steph, il aimerait le voir à l'OM avec des pipes en bois pour savoir s'il arriverait à faire un système.
Alors là, on ne va pas lui souhaiter du mal non plus.
Ces coachs-là, comme au foot, sont amenés forcément à toujours coacher les plus grandes équipes parce qu'ils sont construits un palmarès. Mais j'ai toujours cette curiosité de voir qu'aurait fait Phil Jackson avec une équipe moyennasse.
Est-ce qu'il aurait été capable de faire progresser cette équipe ? Kylian, est-ce que
sur,
vous êtes
sur les Lakers, il arrive, il ne gagne pas. Enfin, il arrive à un moment où les Lakers ne gagnent pas. Et il gagne ensuite. Alors ok,
il y a Shaq et Kobe.
Oui, mais ça gagnait pas avant.
Ça gagnait 60 matchs.
Ah, c'est deux des meilleurs joueurs de l'histoire.
Oui, mais
t'as bien
gagné 60 matchs, tu vas être champion NBA.
D'accord, bon, il a permis ça. Puis donner des bouquins pour lire des histoires. Voilà.
Dans la psychologie.
Qui a le plus de mérite.
Je rejoins Steve sur le côté aussi un peu dogmatique du triangle. On l'a vu, ça l'a usé un peu à la fin. Ça s'est fini d'ailleurs un peu en boudin, hein, avec un sweep, je crois, contre Dallas. Oui. Les Lakers, ça allait un peu bizarre. À New York. Qu'il a voulu avec Jason Kidd, en fait. Mais il était joueur. Hein. Et puis surtout Dirk Nowitzki, je ne sais pas si tu connais. Et au Knicks, il était consultant de la franchise, président GM, et il a voulu un peu imposer le triangle. Je ne sais plus qui était le coach à l'époque 2016-2018.
Mark Jackson, je crois.
Oui.
Et après, Mike Woodson. Après, il prend Jackson.
Mike Woodson et le triangle,
ça. Et donc, ça va pas, quoi, c'est un carnage.
Voilà, il y a eu des petits trucs, mais après, Phil Jackson, ça reste 11 bagues. Quand bien même, il a eu Michael Jordan et Kobe Bryant, certains se sont plantés avec des super teams aussi.
C'est vrai aussi. Bref.
Je pense que Piro peut être champion NBA à la place de Phil Jackson.
Avec Kobe et Shaq.
96.
Kobe aurait mangé.
Bulls. Jordan, Pippen, Rodman.
Bah, c'est Jordan qui m'aurait mangé.
Dennis, cru. Rodman aussi.
Luke Longley, Gas.
Non, Dennis, on aurait
pas mangé. Ah oui, bien sûr.
Entendu.
Il t'aurait pas mangé.
Bonjour, Carmen Electra.
Yo, je m'entraîne pas ce matin. Il y a pas
d'accord,
de problème.
D'accord, vas-y, pars, file.
Vas-y, Dennis. Dis-moi, qui a le plus de mérite du coup ? Phil Jackson ou Pascal Donadieu ?
Pascal Donadieu.
Bravo, Pascal.
Bravo, Pascal.
Allez, on finit avec le quiz. Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant.
T'as qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement.
Ça prend pour Julien Lepers.
Ah oui.
Ah ouais.
Ah, je sais qui c'est.
Moi,
c'est,
je sais pas.
C'est putain, je sais qui c'est.
Vous avez le cerveau abîmé, c'est pour ça, c'est tout.
T'es pas les paysans. T'es un mec de début de Chaumont, toi.
Pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
Mais c'est des calamars.
En plus,
Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, tu me regardais comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Tu peux me laisser parler ?
Voilà ce qui peut se passer dans un quiz de Basket Time. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Milwaukee. Je suppose que vous avez révisé un peu Milwaukee, les Bucks, l'histoire, les grands noms, les titres, etc. Eh bien, vous avez bien fait, puisqu'on va quand même pas mal parler des Bucks. Mais d'abord, on commence par les questions de culture générale. Évidemment, je n'ai pas pu résister à vous faire 2-3 questions sur les cerfs. Les Bucks, donc c'est bien des cerfs, hein, c'est pas des chevreuils.
Des cerfs.
Ouais. J'ai vérifié quand même avant de faire le quiz.
Comme Camille cerf.
C'est les cerfs de Milwaukee. Donc un vrai ou faux sur les cerfs. Ça va aller vite, hein, vous inquiétez pas. On va démarrer avec Kylian, une question chacun. Le cerf est le plus grand mammifère vivant en France, Kylian. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est vrai.
C'est vrai, tout à fait. C'est le plus grand mammifère.
Bah, une baleine dans les eaux territoriales, ça compte, non ?
Comment ?
Une baleine dans les eaux territoriales.
Tu es taquin, mais je ne le retiens pas. Steve, le cerf n'a pas de queue.
Comment ça ?
Le cerf est un animal sans queue.
Ah bon ?
C'est vrai ou c'est...
Est-ce attends, laisse-moi rappeler, parce que je suis allé dans le Wisconsin, je suis allé à Milwaukee, j'en ai vu beaucoup de cerfs.
Alors, il y avait des queues ou
alors,
pas
alors, parfois, j'ai
pas
vu des scènes où ils en avaient. Mais
c'est pas
si
celle-là dont on parle.
Si derrière, je pense qu'il n'y en a pas.
Il y en a une, c'est le chevreuil qui n'a pas de queue.
Ah, allez, dommage. J'ai vu des chevreuils, alors.
Des chevreuils que
je n'ai pas reconnus, je n'ai pas différencié.
Mais ils avaient la queue, quand même.
Et si tu avais vu des chevreuils à 4h du matin, pas des chevreuils. Et enfin, Arnaud, la ramure du cerf tombe à la fin de l'hiver et elle repousse dans la foulée.
Bien sûr.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je vous donne une espèce de cerf, vous me dites si elle existe ou si elle n'existe pas. Kylian.
Un cerf volant, ça existe.
C'est pas gentil pour un autre de dire ça.
Le cerf mouche, ça existe ou ça n'existe pas ?
Ça existe.
Ça n'existe pas.
Steve. Attends, t'as inventé ça ?
Oui.
Le cerf mouche.
Le cerf cochon, ça existe ou ça n'existe pas, Steve ?
Le cerf cochon, c'est un mix. Donc c'est un cerf qui n'a pas de queue et qui a tapé.
C'est une queue en cabochon.
Je veux dire que ça existe.
Ça existe et on les trouve surtout dans l'Himalaya. Bravo, Stephen. Et Arnaud, le cerf souris, ça existe ou ça n'existe pas ?
Ça n'existe pas.
Ça existe, c'est tout petit et ça vit en Indonésie.
Ah oui ?
Donc après ces questions sur les cerfs, vous avez un point chacun.
T'as l'air fasciné.
Cerf-souris, c'est où ?
Ouais, le cerf-souris, c'est un tout petit cerf en Indonésie. Il ressemble pas trop à un cerf.
Il n'y a pas cerf-souris. Hein.
Cerf-tête existe. On a fini sur les cerfs, mais on continue sur la culture générale. Quelle sitcom américaine diffusée de 1974 à 1984 wow. se déroule dans le Milwaukee des années 50-60.
Sitcom.
Sitcom mythique.
J'aime bien les abeilles.
Sitcom très connu qui a été diffusé en France.
Magnum.
Avec un personnage
K2000.
Principal ultra populaire.
Chéri, fais-moi peur.
Un rocker.
Fonzie, Happy Days.
Happy Days. Oh. On envoie le générique.
Monday, Happy Days.
Vous vous souvenez pas que c'était à Milwaukee, Happy Days
avec Ron Howard.
C'était la question suivante. Alors, est-ce que je t'accorde le point ou pas ?
Richie Cunningham.
Pardon. Voilà, qui interprète le rôle de Richie Cunningham ?
Bon, il l'aurait eu.
Ouais, il l'aurait eu.
Allez, on lui donne 3 points. Merci. Pour Steve.
Bravo, Steve.
Tu vois, génération.
Dès que la culture générale se rapproche de la télé, c'est bon, on est là. On attaque sur le basket. Damien Lillard. Damien Lillard qui a été drafté 6e en 2012. Qui est le numéro 1 de la draft cette année-là ?
En 2012.
Oh là là. Anthony Davis.
Bravo. Bravo Arnaud, c'est arrivé vite. Il a pris le temps de réfléchir, il n'a pas paniqué. C'est une excellente réponse. Bradley Beal, 3e de cette draft. Et Evan Fournier, 20e de cette draft. Ça fait 2 points pour Arnaud. Et Giannis Antetokounmpo, le joueur qui a inscrit le plus de points cette saison, en nombre de points, en total de points, pas les points par match. Qui est 2e ?
Doncic ?
Non.
Trae Young ?
Non.
Shai Gilgeous-Alexander ?
Exactement. Il fallait penser aux blessures. Doncic trop souvent après.
C'est vrai.
Steve, 4 points. Je vais vous faire un vrai ou faux sur Kareem Abdul-Jabbar. On en a déjà fait, bien sûr, ce n'est pas les mêmes questions. On va faire un tour, comme ça on démarre par Kylian. Vrai ou faux, Kylian, au Bucks, Kareem Abdul-Jabbar a inscrit plus de 30 points par match en moyenne. En moyenne, sur toute la durée de son passage à Milwaukee, plus de 30 points par match.
Vrai.
C'est vrai à 30,43 points. C'est impressionnant.
Sur deux. Oui. C'est un vrai ou faux, c'est le but d'un vrai ou faux.
Quelle merde soit la question.
Tu auras une chance sur deux aussi.
Tu peux répondre.
Il n'y a pas vrai ou faux ou une réponse quantique. C'est à la fois vrai.
Tu as signé que.
C'est que là, il y a au hasard.
Ok, oui, il y a ça.
Oui, là, il a lancé une pièce en l'air.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Bon, mais il a peut-être pensé que Kareem Abdul-Jabbar était capable de mettre 30 points par match.
Allez, lance la pièce.
Kareem est le joueur qui a pris le plus de rebonds en carrière aux Bucks, en nombre de rebonds, pas en moyenne.
Tu vas me dire que tu sais ça.
Donc ça, c'est le leading rebounder all-time. C'est ça que tu veux me dire ?
Des Bucks.
Allez, voilà. Oui, arrête de faire semblant de réfléchir. Lance ta pièce.
C'est faux,
c'est Giannis.
Ouais.
Voilà. 7100.
T'aurais pu dire que c'était Giannis.
65 Giannis. Contre 7145. Donc ça se joue à pas grand-chose non plus. Vrai ou faux ? Arnaud, par respect pour les Los Angeles Lakers, les Bucks ont toujours refusé de retirer son numéro de maillot.
Par respect
aux Lakers, où il a marqué l'histoire de la NBA.
C'est vrai ?
C'est totalement faux.
Ah oui. C'est quelle histoire, ça ?
La cruauté. On continue. Kylian, Kareem Abdul-Jabbar a été assistant coach. Il a notamment eu en charge le développement de 2 joueurs. Michael Olowokandi aux Clippers en 98, puis Andrew Bynum aux Lakers en 2005. Des pivots jeunes, prometteur. Bon, l'un a réussi, l'autre moins.
Vrai.
C'est absolument vrai, oui. Absolument vrai. Il n'a pas une grande carrière de coach, mais il a essayé.
Je ne sais pas s'il prenait les gros chèques comme Patrick Ewing, tu sais, ses stages.
C'est Hakim qui prend.
Hakim.
Steve, oui, Kareem Abdul-Jabbar est ceinture noire de karaté.
Non, c'est faux.
C'est vrai.
Pièce en l'air.
Ouais, c'est vrai. Alors que Bruce Lee... N'est pas ceinture noire.
Oui.
Parce qu'il est d'une école de karaté qui ne remet pas de ceinture. C'est incroyable cette histoire. Bruce Lee n'est pas ceinture noire de karaté.
Et qui gagne
fallait bien s'attacher.
Alors, karaté.
Ah, c'est quand même Bruce Lee.
Bon, pas sûr.
Et enfin, Arnaud.
Aujourd'hui, pas sûr.
Kareem Abdul-Jabbar a écrit des livres pour enfants.
Je crois que c'est vrai.
C'est tout à fait vrai.
Traduit par Bachelet.
On fait le point sur le score. Ouh, il y a 6 points pour Steve. 3 points pour Kylian, 3 points pour Arnaud. Peut-être qu'on peut vous réunir, vous mettre dans la même équipe. Pour la
6-6. Allez.
J'ai pas fini. Allez, on va parler d'un match très important de l'histoire de Milwaukee. Le match 5 des finales 2021. D'accord ? Contre Phoenix. Il y a 2-2 à ce moment-là. Donc c'est un match pivot, un match crucial. On est à moins de 20 secondes de la fin. Et Milwaukee a un point d'avance. Ok. Ballon Phoenix. Interception, Jrue Holiday, évidemment.
C'est exactement ce
qui remonte le ballon, qui joue le alley-oop sur Giannis, qui marque avec la faute. Qui fait cette faute abominable ? Non. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête, la faute, elle est ridicule. Et elle offre un point qui tue pratiquement le match. Qui fait cette faute sur Giannis ?
Devin Booker ?
Non.
Chris Paul.
C'est Chris Paul.
Ah,
Devin Booker, il perd le ballon, mais Chris Paul, il a les mains au niveau des hanches de Giannis. Il le pousse comme un idiot. Oui. Et ça fait lancer et ça scelle le score du match. Steve Setz, 7 points. 7 points à 6 du coup, hein, je vous... Non, pas encore. Peut-être pour la dernière question.
Un peu de challenge pour Steve.
On approche de la dernière question. Je vais vous faire un Kostas Soutanasis.
Les deux.
Kostas Soutanasis, hein. Les deux ou aucun des deux. Il y a 4 réponses possibles.
Pas la pièce là, par contre.
Kylian, là, pour
avoir un peu de culture basket.
Kylian, j'ai joué au Panathinaikos. Kostas Soutanasis, les deux ou aucun des deux.
Thanasis, c'est sûr, du coup.
Du coup, puisque Steve
l'a dit tout à l'heure,
il jette la pour lui.
Ça te fait déjà une réponse, une réponse en moins.
Je vais dire les deux.
Les deux, absolument. Kostas, en ce moment même, et Thanasis de 2017 à 2019. Steve, j'ai joué au New York Knicks.
J'ai joué au New York Knicks ?
Ouais.
C'est bien. Ouais. Alors, Thanasis a joué au New York Knicks. Et Kostas n'a joué qu'au Lakers, il me semble, donc je veux dire Thanasis.
C'est une bonne réponse, en 2016 et pas longtemps, hein, donc il y avait un petit piège là encore. Et Arnaud, j'ai joué au Chicago Bulls.
Oh.
Tu viens de l'aider encore une fois, Nico.
Elle n'est pas cadeau. Hein.
Pourquoi il m'a aidé ?
Parce qu'il vient de dire dans quel club il avait joué.
Il avait dit Lakers.
Ah mais il y en a deux.
Oui, mais bon, pour l'autre.
Kostas.
Eh bien, t'es tombé dans le piège puisque Kostas a été sous contrat au Bulls, n'a pas disputé un seul match. Donc
Il a joué qu'aux Lakers.
Alors, on revient à une question classique pour tout le monde. Quel joueur des Bucks, on cherche un joueur des Bucks, quel joueur des Bucks a terminé 5e meilleur marqueur lors de la saison 2006-2007 derrière
Montalis ?
Non. Kobe Bryant, Carmelo Anthony.
Michael Redd ?
Michael Redd, excellent. Et bravo, Steve. Là, sur les Bucks, t'es au-dessus.
Ouais, Montalis, c'est trop jeune.
Parce qu'il n'y a pas ton frère qui vit à Milwaukee, non ?
Si. Entre Milwaukee et Chicago.
Si je trouve cette liste, elle est incroyable. C'est Kobe, Carmelo, Arenas, LeBron, donc Michael Redd, Ray Allen, ouais. Allen Iverson, wow. Vince Carter.
Michael Redd, shooter exceptionnel. Hein. Voilà. Gaucher derrière la tête, il
dans un spécial Bucks, il fallait le citer au moins une fois, non ?
Michael Redd, ouais.
Voilà, ça fait un combien ? 10e point ?
Non, 8.
9e point.
Merci.
Je sais pas comment vous allez faire pour revenir.
Qu'est-ce qu'il reste là en stock ?
Damien Lillard a inscrit 39 points lors du All-Star Game. Qui détient le record de points ?
Jason Tatum, 55.
Bravo. Voilà. Donc je vais vous réunir pour la dernière question.
Qui a pris le point là ?
C'est toi.
Merci.
Ça fait 10.
Il a eu peur.
C'est une question de la semaine dernière.
Donc 10 à 7, oui. Je suis obligé de vous réunir.
T'as pas écouté le podcast.
Dommage. Donc 10 à 7, je suis obligé de vous réunir pour la dernière question, question multipoint sous forme d'enchères, il n'y a que 4 points à prendre parce que c'est très dur. C'est très dur. D'avoir les 4 points, c'est quasiment impossible, ou alors vous m'impressionnez vraiment.
4 noms quoi.
C'est 4 noms. Les 4 premiers choix de draft de Milwaukee dans son histoire. 4 fois depuis la création de la franchise en 68, les Bucks ont eu le premier choix de draft.
Salopio.
Combien êtes-vous capable de m'en citer ? Alors,
déjà un, ça serait bien.
Déjà un pour Arnaud.
Non, ah non, oui, un, mais j'ai aucune idée.
Un, mais
je vais tenter.
Un, mais tu sais pas qui veut dire qui.
J'ai un nom.
On peut tenter un nom.
Steve, chéri.
Attends,
il y en a eu 4. Allez, je vais vous donner les années.
Ouais, vas-y.
1969.
Oui.
1977.
Celui-là, je l'ai pas.
1994 et 2005.
2005,
tac, ça va revenir d'un coup. 2005, ça va revenir d'un coup. À un moment, vous allez l'avoir, l'un ou l'autre. Est-ce que tu en chéris ?
Deux.
Ah, il l'a ! Est-ce que tu en chéris,
pas,
Kylian ?
Pas du tout.
Pas du tout. Est-ce que tu en chéris, Arnaud ? Bon, bah, vous êtes mort.
Allez, il faut qu'il ait les deux. Hein.
Ouais, il faut qu'il ait les deux.
Ça marche pas.
C'est vrai. Sinon, c'est 4 points l'adversaire. Nouvelle règle inventée.
Lou Alcindor ?
Exactement, en 69.
Glenn Big Dog Robinson en 94.
Excellent, il est exceptionnel. Et le 2005 ?
2005,
vous l'avez.
2005.
Il suffit que je
Andrew
vous donne.
Bogut.
Exactement.
Ah oui, bien joué. Oui, oui.
Andre Bogut et 77, je sais pas. Bill Walton, non.
Alors 77, moi j'avais jamais entendu ce nom.
Dans mon crif, c'était pas lui.
Il s'appelle Kent Benson.
l'affaire de George.
C'est un
George
pilier, Benson, ouais. C'est un des pires premiers choix de l'histoire.
Ken Benson.
Qui est resté dans l'histoire simplement parce que Karim Abdul-Jabbar s'est cassé la main en lui mettant une droite.
Ah oui,
une bagarre, voilà.
Ken Benson.
Mais franchement, félicitations, Steve, c'était
merci,
pas facile.
Bravo.
C'est gagné, à la semaine prochaine.
Je dédicace cette victoire à toute ma famille.
RMC Basket Time.